Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et à mes côtés, un amoureux de l'histoire, un ambassadeur du patrimoine, un monument de l'audiovisuel français qui, cela dit, n'a pas besoin de rénovation. Bonjour Stéphane Bern.
Au revoir. Bonjour Mathieu. Ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire décomplexée.
Ça se voit pas en tout cas.
Parfois même un peu trop.
Ah, oui, ces derniers jours.
Oui, ça dérape.
Certains thèmes de notre émission, nous en avons conscience, ont pu choquer les plus prudes d'entre vous, notamment notre numéro Voyance et Histoire de boule, où la rencontre du savoir et de la légèreté est peut-être allée un peu trop loin. De même, certains récits historiques menés par Stéphane, au sujet de Marc-Antoine ou Napoléon, ont pu, par leur degré inédit de détail, vous surprendre.
Et en plus, il avait une crise d'hémorroïdes.
Oui, aujourd'hui, Stéphane, fini les digressions hémorroïdaires. Nous allons tâcher de nous élever un peu.
Oui, Mathieu, en compagnie, comme chaque fois, après de trois personnages que rien, mais vraiment rien, a priori, ne relie, si ce n'est un point commun. Aujourd'hui, ce point commun, c'est leur foi.
Dominique, Nique, s'en allait.
Non, s'il vous plaît, en régie, un peu de sérieux. Non. Leur foi.
Près de toi.
Mon Dieu. Un Seigneur, oui. Bien, voilà, c'est ça.
L'homme qui était incapable de sortir une note juste.
Ah oui, incapable.
C'était bien, ça, c'était bien.
Non.
Dans l'émission, c'est les faillots, c'était l'autre jour.
En tout cas, nous vous parlons aujourd'hui de ces hommes et de ces femmes qui un jour ont entendu et répondu à l'appel de Dieu.
Oui, et je crois que c'est la première fois que dans une même émission, il sera question de Louise de Lavallière, de Sainte-Thérèse de Lisieux et de Kanye West. Lequel des trois vous connaissez le mieux, Stéphane?
Alors, en fait, surtout les deux premiers.
Bon, alors, si ça vous arrange, je ferai Kanye West.
Oui. Enfin, même, je l'ai rencontré déjà.
C'est vrai?
Oui, absolument.
Je me demandais.
Oui, en fait, il était assis en face de moi. Je ne savais absolument pas qui était ce monsieur qui monte photographier.
Vous pensez que c'était vous en prenant photo?
Non. Et j'ai demandé ce qu'il faisait dans la vie.
C'est génial, il a dit quoi?
Et il m'a répondu. Il était très gentil, très gentil. Alors, vous l'avez compris, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire. Toute l'histoire, la grande, la petite, la moyenne, avec une équipe de fidèles qui croit dur comme fer au principe d'apprendre des choses, mais tout en s'amusant. Lui remonte le temps aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien, d'une invention, d'une passion. Bonjour David Castillo-Lopez.
Bonjour Stéphane.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Les origines de ces gens qui veulent ressembler à des dieux, mais des dieux un petit peu chelous, hein, et qu'on appelle les bodybuilders.
Ah, très bien. Oui. Et avec nous également Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors les dieux, les rois, les reines, les croyants, les défroqués, personne n'a le secret pour vous. Vous savez tout. Vous nous faites pénétrer dans l'intimité de l'histoire à la découverte des petits secrets des grands de ce monde.
Il court, le furet du bois, mesdames. Vous connaissez cette comptine apparemment inoffensive et champêtre, messieurs. Saviez-vous qu'en fait, c'est une contrepétrie tout à fait cochonne?
Ah oui.
Inspirée des débauches de l'abbé Dubois, précepteur. Vous savez très bien, faites pas votre Sainte-Nitouche. Alors là, s'il y a un truc que vous connaissez, Stéphane,
mais
c'est bien ça. Hein.
J'aime bien faire la Sainte-Nitouche.
Alors vous en tout bien, cas, hein. je vais vous parler de l'abbé Dubois qui lui était un sacré drôle de paroissien.
Ah oui. Et puis, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe. Nous savourons l'histoire de la cuisine et aujourd'hui, quel est le menu?
Eh bien, on va coller au plus près au thème. Un des plus beaux desserts qui soit, une religieuse, mes amis.
Ah oui.
Mais d'où vient cette pâtisserie? Et je vous donnerai une recette un peu simplifié
parce
que
c'est très compliqué,
franchement, sinon il faut se retrousser les manches.
Et puis vous faites un peu comme si ça n'existait pas, Stéphane, dans un cruel déni de réalité, mais je peux vous dire que nos auditeurs, eux, n'ont pas oublié votre rendez-vous avec l'histoire. Bern to be alive, ce quiz souvent savoureux
que je remporte ces derniers jours, que
vous y connaissez vraiment l'histoire. Et c'est vrai que ces derniers jours, on ne sait pas ce qui se passe.
Je sais que ça vous écorche les lèvres,
c'est vrai,
et la
de
bouche
le dire, mais vous,
le
avez,
dire.
Vous avez fréquemment gagné, ce qui est vraiment étonnant face à une érudite comme Clémentine Portier-Kaltenbach.
Elle est historienne, ce que je ne suis
pas du tout, mais ça suffit.
Pas historienne?
Non.
Mais rendez votre badge.
C'est bien, elle n'a pas encore son badge, elle n'a pas besoin de le rendre. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et chaque après-midi, trois personnages unis autour d'un thème. Aujourd'hui, le thème, c'est « Dieu leur a donné la foi ».
Et on y vient, Stéphane. Mais comme chaque après-midi, on démarre avec un jeune homme à qui ça m'étonnerait, vu ses mœurs, que Dieu lui ait donné la foi. Il est le playboy, le BG de la bande, David Castello-Lopez.
Et pourtant, on lui donnerait le bon Dieu sans confession.
Et pourtant, mais vous allez voir, c'est un journaliste charmeur, à la musculature ciselée, qui dans sa vie de séducteur a eu les plus belles femmes.
Et Yves Mourouzi aussi.
Oui, alors, Bonjour. Bonjour,
mais David Castello. C'est il y a 33 ans.
Enchaînez plutôt sur votre histoire du jour, sur les origines du
bodybuilding, tout à fait. Moi, je crois que je suis comme la plupart des gens, en fait, qui ne font pas de bodybuilding.
Vous méprisez ça.
C'est-à-dire que je trouve que c'est une activité chelou. Hein, voilà.
Parce que vous êtes jaloux.
Pas tout à fait. Je pense que le truc, c'est que le but du bodybuilding, c'est pas de devenir musclé. Ça, on comprend. Moi-même, j'aimerais bien. Et je pense que je suis pas le seul, hein, autour de cette table. Non, le but du bodybuilding, c'est de devenir un strum.
Alors, c'est quoi un strum?
Un strum, c'est le verlan de monstre. Et je trouve que ça dit mieux ce que c'est qu'un monstre de dire strum plutôt que monstre. Et c'est devenir un strum, donc, le but du bodybuilding. Mais pas n'importe quel strum, une sorte de strum bien organisé, avec toutes les mêmes choses qu'une personne normale, rangées au même endroit, hein, les biceps, les pectoraux, les fessiers, tout ça. Mais toutes ces choses-là, infiniment trop grosses. Trop grosses dans l'absolu, d'une part, mais surtout trop grosses par rapport à toutes les parties du corps des bodybuilders qu'ils ne peuvent pas bodybuilder, parce qu'il y a peu ou pas de muscles dessus. Et oui, et du coup, toutes ces parties non musclables, elles paraissent trop petites sur le corps des bodybuilders. Leur visage, par exemple, leur poignet.
Oui, oui, entre autres,
voilà. C'est pas un muscle.
Le cerveau non plus.
Exactement. Mais alors, d'où viennent ces gens étonnants? Qui a inventé cette activité chelou? Alors, il faut revenir au 19e siècle. Au 19e siècle, il y avait dans les foires des hommes qui faisaient des démonstrations de force en déchirant des jeux de cartes, par exemple, en tordant des barres de fer, en soulevant des animaux très lourds. Mais ces gens-là, qu'on appelait souvent les hommes les plus forts du monde, c'était un peu des physiques de déménageurs qui mangent trop. Vous voyez, c'était avec leur maillot en laine accroché à une seule épaule, vous voyez. Et c'était donc pas des gens qui étaient, selon les canons occidentaux, en tout cas, des gens très beaux à voir. Mais parmi ces gens-là, à la fin du 19e siècle, il y a un homme qui s'est démarqué parce qu'il était non seulement super fort, mais aussi super beau à voir et incroyablement bien proportionné. Et cet homme-là, il était allemand et il s'appelait Eugène Sandow.
Toujours un allemand dans chacune de vos chroniques.
Beaucoup d'allemands.
On commence toujours par un allemand et ensuite on va voir Schwarzenegger, on va partir en Autrichien et aux États-Unis. C'est toujours la même logique.
Il y a beaucoup d'allemands. Il a écumé les cirques et les foires en Europe, puis il est parti aux États-Unis.
Bien sûr. Toujours la même histoire.
Et c'est devenu une star, notamment parce que son producteur s'est rendu compte que les gens avaient l'air beaucoup plus fascinés par son body que par sa force. Il y avait des cartes postales qui le montraient à moitié nu avec ses super muscles. Il a même fait l'objet d'un des premiers films de l'histoire de l'humanité, filmé dans les studios d'Edison en 1894, qu'on peut voir sur YouTube, et où on le voit faire déjà les poses caractéristiques du bodybuilding. Alors c'est la radio, on voit pas, mais vous savez, ces trucs un petit peu comme ça.
Mais vous le faites
comme
bien,
ça, voilà.
On voit que vous avez fait beaucoup de bodybuilding.
Pour montrer les muscles saillants, en fait.
Exactement. Ensuite, il est rentré en Angleterre et comme c'était un super homme d'affaires, il a fait plusieurs choses. Un, il a lancé un gymnase. Deux, il a lancé un magazine pour aider les gens à être musclés comme lui. Et surtout, trois, il a breveté des haltères et des bandes élastiques pour faire des exercices de musculation. Et il a même laissé son nom à l'une d'entre elles. Et oui, comment on appelle un élastique super résistant avec deux crochets au bout dont on sert pour fermer son coffre quand on transporte un matelas?
Un Sandow.
Un Sandow. Eh ben, c'est Sandow parce qu'il s'appelait Eugène Sandow.
Vous transportez beaucoup de matelas, Stéphane? Non, dans quelles circonstances?
Ça, c'est quand même du fun fact de compète. Et dernière chose, en 1901, il a organisé ce qui est considéré encore aujourd'hui comme le premier concours de bodybuilding de l'histoire de l'humanité à Londres. Il a eu un succès fou, des candidats venus de toute l'Angleterre, 2000 spectateurs, et dans le jury, un certain monsieur Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était un des élèves de Sandow, parce qu'il aimait bien être musclé, Conan Doyle.
Ah oui.
Mais bon, le truc, c'est que quand vous voyez les images des bodybuilders de ces années-là, franchement, ça va
encore.
Ils sont juste très musclés.
Il n'y a pas les protéines en poudre, voilà. La créatine.
Et ça a commencé à déconner complètement dans les années 60-70, surtout avec Schwarzy, qui en a fait une pratique connue dans le monde entier, et plus encore dans les années 80-90, où ils ont commencé à prendre des produits anabolisants dans tous les sens. Voilà. Et aujourd'hui, le bodybuilding, c'est devenu non plus une course au corps le plus joliment, mais normalement musclé. C'est devenu une course tout simplement au plus gros muscle.
Au plus gros muscle.
Petit exemple, Eugène Sandow, il faisait 1m75. Pour 88 kilos.
C'est déjà...
C'est beaucoup. Ouais. Mais Phil Heath, qui est le plus grand champion de bodybuilding des années 2010, il faisait 1m75 aussi, mais 115 kilos.
Bon.
27 kilos de plus que Eugène Sandow.
C'est du muscle, c'est pas du gras.
Oui, mais c'est trop de muscles.
C'est disproportionné, Stéphane. On a vu les photos, je vous montrerai quelques magazines.
En tout cas, merci.
Merci beaucoup.
Allez, poussez un peu de fonte.
Ça intéresse à des trucs bizarres.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous fait voyager dans le temps et qui aujourd'hui va même vous rapprocher de Dieu. Car c'est le point commun entre nos trois personnages du jour. Dieu leur a donné la foi.
Dieu me donne.
Chantée, paraît-il, Louise de la Vallière lors de ce dans son couvent. C'est son histoire que nous raconte Stéphane Bern.
Historiquement vôtre. Le récit.
C'est sans doute la femme qui me touche le plus d'un parmi toutes les maîtresses.
Quel sens? Ah oui,
Non, elle ne m'a pas touché, elle m'émeut beaucoup. Elle était la première favorite officielle du roi Louis XIV et pourtant, c'est la grande oubliée de son règne. Jeune fille du Bourbonnais, Louise de la Vallière est appréciée par ses contemporains car elle a l'esprit modeste et le cœur pur. Mais à la cour de Versailles, où la lutte pour le pouvoir est sans fin, cette bonté d'âme lui joue des tours. Et trop vite, la discrète Louise est éclipsée par la piquante Madame de Montespan. Cruellement rejetée par le roi Soleil, Louise de la Vallière se réfugie dans la religion et entend mener une vie de pénitence, loin des richesses et des fastes de la cour. Louise de la Baume-le-Blanc intègre la cour du roi l'année de ses 17 ans. C'est une jeune fille à la silhouette élancée, dont le visage gracieux est encadré de cheveux blonds cendrés. Mais ce qui marque le plus ceux qui la croient, c'est son regard angélique d'un bleu profond. On rapporte aussi que Louise de la Vallière boite légèrement, mais ce défaut ne l'empêche pas d'être une danseuse remarquée pendant les grandes fêtes qui caractérisent le faste de la cour royale.
Ça, c'est la musique de Danse avec les stars.
Oui, c'est pas ça. J'aurais préféré qu'on continue avec un peu de Lully.
Oui, mais on n'avait pas les droits, alors on a mis Danse avec les stars.
Quand Louise de la Vallière arrive à la cour, elle a donc toutes les qualités requises pour que le roi succombe à ses charmes. Louis XIV a 23 ans. Il est certes marié à Marie-Thérèse d'Autriche, qui cette même année met au monde leur premier fils, le grand dauphin. Mais je vous l'ai toujours dit, hein, on se mariait pas par amour, on se mariait par devoir.
Donc pour avoir descendance.
Exactement. Mais le roi cache des secrets d'alcôve, donc il n'est pas l'homme d'une seule femme et entretient à l'époque une liaison scandaleuse avec sa belle-sœur, Henriette
Pourquoi
d'Angleterre.
Pourquoi scandaleuse? Puisqu'on avait le droit.
Non, c'est sa belle-sœur.
Ah, le fait que ce soit sa belle-sœur, oui, c'est choquant. Ça, je ne sais pas au point où ils en sont,
en
les
même
rois.
Temps, voyez-vous, son frère n'aimait pas tellement les dames.
Oui, je connais cette histoire aussi.
Pour dissimuler cette fâcheuse idylle, le roi aurait faim de courtiser l'une des demoiselles d'honneur d'Henriette. Une jeune femme douce et ingénue qui n'est autre que la jeune Louise. Sauf que bien vite, ce roi si sûr de lui se laisse prendre à son propre jeu. Il est profondément séduit par Louise qui est animée par la même flamme. Leur passion illégitime est d'abord un secret, mais à la mort de sa mère, la très pieuse Anne d'Autriche, le roi, qui a décidément peu de scrupules à tromper son épouse, décide d'afficher cette relation extra-conjugale. Louise devient la maîtresse officielle du roi. Elle est sa favorite et se voit octroyer le titre de duchesse de Vaujours et de la Vallière. Si la relation qu'entretiennent les deux amants est affichée, la morale, quant à elle, condamne toujours le péché d'adultère. Louise est sincèrement amoureuse du roi. Mais c'est une fervente chrétienne. Elle est tenaillée par un profond sentiment de honte. Pourtant, le statut de favorite fait bien des envieuses. On se bat pour obtenir les faveurs royales et gagner la couche du roi, alors que, je vous le rappelle, elle a commencé comme femme paravent. Elle était le paravent d'Henriette d'Angleterre.
Et on sait un petit peu, Stéphane, combien il y a eu de maîtresses à ce stade-là. Louis a 24 ans, il a déjà eu beaucoup, beaucoup de maîtresses à ce chiffre.
Il y a eu les sœurs Mancini. Non, on peut pas chiffrer. Il y a même eu la princesse de Monaco, vous savez.
La princesse de Monaco?
Oui, déjà à l'époque.
Ah oui,
et ce n'est pas sans conséquence, je vous le dis, sur la relation de nos deux amants, cette foi qui est chevillée à l'âme de Louise. Car l'amour que le roi porte à la trop effacée Louise s'estompe à mesure que sa passion pour une nouvelle prétendante grandit.
Aïe, aïe, aïe.
Athénaïs de Montespan est une femme de caractère. Elle fait de l'ombre à Louise de la Vallière jusqu'à l'éclipser totalement. Une terrible maladie manque d'emporter Louise. Elle croit mourir et se voit aux portes de l'enfer, car la duchesse de la Vallière réalise qu'elle mène une vie de pécheresse.
Comme ça, donc.
Elle ne s'est jamais repentie. Et pourtant, les plaisirs charnels qu'elle a partagés avec le roi, comme le mode de vie oisif et luxueux qu'elle mène à la cour, font d'elle une grande égarée. Dès lors, Louise de la Vallière cherche à retrouver le chemin de la vertu. Elle n'entrevoit qu'un seul avenir. Pour trouver la paix, il lui faut revêtir l'habit et recevoir la miséricorde de Dieu. Si l'amour sincère qu'elle a porté au roi a failli la plonger dans les limbes pour l'éternité, alors elle s'abandonnera au seul amour divin. Mais soumise au désir d'un roi qui exige la présence constante de sa maîtresse, comment Louise de la Vallière peut-elle s'adonner pleinement à Dieu ?
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Mon cher Stéphane, vous vous êtes interrompu pile au moment où la jeune Louise de la Vallière devait faire le choix du roi ou de Dieu. Elle hésitait entre les deux.
Oh, merci, vous me mettez Armide de Lully. C'est gentil. À la cour du roi, Louise de Lavallière se fait de plus en plus discrète. Si Louis XIV ne l'y oblige pas, elle ne participe plus aux fêtes. D'ailleurs, il faudra bien se rendre compte que Louis XIV doit se montrer odieux. Vous savez, on raconte une anecdote. À un moment, il y avait beaucoup de chiens à la cour du roi. Et il donne son chien pour aller chez Madame de Montespan. Il fallait passer par la chambre de Madame de la, par Louise de Lavallière.
Oh,
il
pratique.
Laisse son chien. Il dit « Voilà, Madame, ça suffira pour votre compagnie. »
Oh. Oui.
Ah non, il était odieux. On remarque
quel goujat.
Que Louise de Lavallière porte désormais des vêtements modestes, laissant ses robes d'apparat au placard. On raconte même que pour se punir, Louise s'impose un terrible châtiment. Sous ses vêtements, elle cache un instrument de torture. C'est un cilice, vous savez, une ceinture de fer dont les pointes écorchent les chairs.
Je ne savais pas, non, Stéphane.
Bientôt, Louise supplie Louis XIV de la laisser quitter la cour pour se retirer au couvent. Et à l'âge de 30 ans, 13 ans après avoir rencontré le roi Soleil, Louise intègre définitivement le couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris. Avant de quitter la cour, elle fait un geste de repentance que je trouve admirable. Elle présente publiquement ses excuses à la reine Marie-Thérèse pour tout le mal qu'elle lui a causé. Dès son arrivée au couvent, Louise fait couper ses boucles blondes et revêt le voile noir. Derrière les immenses grilles du couvent où les moniales vivent recluses, la duchesse de Vaujours se fait désormais appeler Sœur Louise de la Miséricorde et mène une vie de pénitence. Sœur Louise passe 36 ans au Carmélite. À sa mort, le roi Soleil, qui l'humilia tant, déclare que Louise de Lavallière est morte pour lui il y a déjà bien longtemps, le jour de son entrée au couvent.
Classe jusqu'au bout.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors Stéphane, autant sur toute la partie courtisane de Louise de Lavallière, l'époque où elle couchait joyeusement avec le roi, vous êtes béton, autant sur la partie couvent, je vous sens moins informé. Heureusement, pour en savoir plus de cette étonnante rencontre avec Dieu, nous accueillons l'historien Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes notamment l'auteur de la biographie de Louis XIV, d'une autre consacrée à Louise de Lavallière chez Perrin.
Ça tombe bien pour notre sujet du
jour. Collection Poche Tempus. Qu'est-ce qui, chez Louise de Lavallière, a plu à Louis XIV? Est-ce que c'est le fait qu'elle était complètement désintéressée, qu'elle l'aimait pour lui et non pour sa couronne? Parce qu'elle jurait avec les faux-semblants qui avaient cours à la cour, si je puis dire. Au fond, c'était un coup de foudre sincère et désintéressé.
Absolument.
On est sûr de ça.
Il y a surtout chez Lavallière une timidité qui retrouve celle du roi. Parce que finalement, on n'imagine pas Louis XIV un homme timide. Or, tous les Bourbons, à l'exception d'Henri IV, sont des grands timides. Et ils ont besoin de faire un apprentissage avec les femmes. Ça sera avec Athénaïs, marquise de Montespan, que Louis XIV la fera véritablement, cette initiation.
Pourquoi? Parce que Cato la Borgnesse lui avait pas appris...
Si, bien sûr, mais bon...
Elle l'avait déniaisé, simplement.
Voilà, voilà. Bon. Oui. Je suis moins sûr de l'aventure avec Henriette d'Angleterre. Je pense que ça a été une aventure plutôt chaste. Il partait se promener dans la forêt de Fontainebleau.
Il l'a pas pécho, comme on dit.
Non, je pense pas.
On a toujours dit que Louise Lavallière était son paravent.
Ah oui, alors ça, bien sûr. Ah. Parce qu'on commençait à jaser. Le roi courtisait sa belle-sœur et cousine Henriette d'Angleterre. Ça, c'est évident. Ils avaient besoin d'un paravent, en effet. Et le roi va tomber dans le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu, puisqu'il va tomber amoureux de ce on appelait ça un chandelier. Il va tomber amoureux du chandelier qui est Louise de Lavallière, et l'aventure va durer plusieurs années. Elle reste à la cour à peu près 13 ans et au couvent un peu plus de 35 ans, presque 36 ans.
Ce qui est intéressant, Jean-Christian Petit-Fils, avec Louise de Lavallière, c'est qu'elle veut expier ses péchés, en tout cas ses faiblesses, et qu'elle a fait plusieurs tentatives déjà pour entrer au couvent avant que le roi ne l'y autorise.
Oui, tout à fait. Elle a fait deux tentatives. À chaque fois, c'était une petite brouille avec le roi. Elle pensait que c'était fini, c'était la rupture. Et donc, au petit matin, elle marche jusqu'à la colline de Chaillot, à ce moment-là, qui était en dehors de Paris. Et elle va d'abord dans un couvent de chanoinesse, où le roi, apprenant la nouvelle, galope et va la rechercher. Et puis, la ramène à la cour. Et puis, 9 ans plus tard, en 1671, à nouveau une fuite, cette fois aux visitandines, toujours de Chaillot. Donc, elle a un attrait pour le couvent. Mais en même temps, elle a une grande faiblesse. Elle hésite à se convertir. Et pendant des mois et des mois, elle va accepter par amour pour le roi, parce qu'elle veut toujours rester près du roi quand même, cette cohabitation absolument monstrueuse avec Madame de Montespan. Et le roi, avec un cynisme confondant, s'en va en carrosse avec la reine d'un côté, Madame de Montespan et Mademoiselle de la Vallière. Et les paysans disent, on va aller voir les trois reines. On va aller voir les trois reines.
C'était
dans
un
une
rêve,
cour chrétienne, ça paraît extrêmement étonnant.
Mais, cela dit, pourquoi le roi l'empêche d'entrer au couvent pour ensuite la délaisser terriblement et se dire pour moi elle est morte ce jour-là.
Il jamais
alors, il l'empêche parce que il a besoin à nouveau d'un paravent. C'est Madame de Montespan qui est mariée avec Monsieur de Montespan.
Et donc c'est vrai cette histoire que je racontais qu'il fallait entrer dans la chambre, passer
absolument.
Par la chambre de la Vallière pour aller chez la Montespan.
C'était quand même mal foutu.
Oui. Avec un si grand château comme celui de Versailles.
Mais non, c'était fait exprès justement.
Oui. Que la chambre commande l'autre.
Le roi allait chez Mademoiselle de la Vallière officiellement, mais passait dans la chambre de Madame
et
de Montespan.
Et les relations entre la Vallière et la Montespan, c'était comment? C'était électrique?
Eh bien, Madame de Montespan était odieuse avec la Vallière, l'a humiliée constamment, l'a traitée comme sa coiffeuse, et Louise l'a acceptée par charité chrétienne, mais en même temps aussi par faiblesse. Elle voulait rester, elle s'accrochait. Et puis, tout a changé en 1674. Là, c'est fini. Elle s'en va et elle choisit l'ordre le plus strict, le plus austère.
Les carmélites réformés. Parce qu'on ne sort plus. En tout cas, merci Jean-Christian Petit-Fils. Je rappelle vos deux biographies. Louis XIV, Louise de la Vallière, chez Perrin. Historiquement vôtre. Continue 2 heures d'histoire avec un grand H, mais aussi un petit H ou un petit cul.
Et oui, pourquoi pas, Stéphane, on franchit un cap dans... Oui, pourquoi pas, dans la vulgarisation historique. Alors oui, Stéphane, chaque après-midi, on évoque des moments clés de l'histoire, mais on aime aussi découvrir ce qui s'est dit en off. Car c'est souvent en coulisses que surviennent les discussions les plus croustillantes, ce dont vous avez d'ailleurs parfaitement conscience, Stéphane, puisque dès que vous vous apprêtez à sortir une vacherie sur quelqu'un, vous demandez d'abord à la régie...
On est d'accord, ce qui se dit en studio, en off et off.
Bien sûr, eux n'avaient pas à craindre qu'on les enregistre, le micro n'existait pas et pourtant Clémentine Portier-Kaltenbach a réussi à savoir ce qu'ils se sont dit. Plongeons dans l'intimité de l'histoire avec
oui,
vous Clémentine.
Oui mais là j'ai bien failli pas venir parce
pourquoi
que
donc
bah, pendant, en entendant Mathieu, là j'étais touchée par la grâce telle Claudel à Notre-Dame. Je me suis dit que j'allais rentrer chez les carmélites.
Oh non, pas vous Clémentine.
Elles n'ont pas voulu de moi. Donc écoutez,
et pour cause.
Je vais évoquer pour vous un drôle de paroissien que Stéphane connaît très bien, c'est son ecclésiastique préféré bien sûr. Hein. L'abbé Dubois.
Qui n'était pas de bois.
Certes, alors Saint-Simon, en son temps, trempa sa plume dans le vitriol pour nous décrire ce Dubois machiavélique. L'abbé Dubois était un petit homme maigre, effilé, chafouin, à perruque blonde, à mine de fouine. L'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux. Suivent différents noms d'oiseaux, fripons, sacres. Alors sacre, quand on dit sacre au XVIIe, passez-moi l'expression, messieurs, je vous prie, ça veut dire sacré baiseur. Hein.
Bon. Ah, sacre tout court, ça veut dire
oui, sacre, c'est sacré baiseur. Donc, ite missa est, la messe est dite pour l'abbé Dubois. Et ce Dubois de Saint-Simon, vous le connaissez, Mathieu, vous aussi, parce que c'est celui qui interprète Jean Rochefort dans le film Que la fête commence. Vous
excellent.
Voyez, c'est lui l'abbé Dubois.
Ah, il est fabuleux. Oui.
Et le régent y est incarné par Philippe Noiret. Alors, ce Dubois-là, qu'on voit dans ce film, je cite un de ses biographes, fornicant, tenant des propos scandaleux, déguisés en satire, compère des maquerelles, confortant le régent dans ses excès, lui fournissant des filles et laissant la plus célèbre putain de Paris le couronner du titre de maquereau. En fait, l'abbé Dubois est jalousé pour son influence à la cour, son influence sur le régent. Et il est dépeint par ses ennemis comme un foutriquet de la pire espèce qui flatte son élève, nous dit Saint-Simon, du côté des mœurs, pour le jeter dans la débauche. Mais en réalité, quand on connaît un petit peu Philippe d'Orléans, on sait qu'il n'a pas du tout eu besoin de Dubois pour adorer les femmes. Il a perdu son pucelage à 13 ans. Hein. Puis, c'est l'abbé Dubois qui a bien du mal à maîtriser l'appétit sexuel de son élève. Le suit-il dans ses escapades? Sans doute, puisqu'il le suit partout. Au demeurant, l'abbé Dubois, n'ayant reçu que la tonsure, lui-même n'est pas prêtre. Et donc, il n'a pas fait vœu de chasteté. Et il aura même une maîtresse attitrée. Alors, à la mort de Louis XIV, Philippe devient régent et Dubois le laisse s'épuiser la nuit pour s'accaparer à ses dépens de plus en plus de prérogatives. Et il va obtenir l'intervention de Philippe auprès du pape, tenez-vous bien, pour pouvoir devenir cardinal. Et le régent Persifleur lui aurait lancé « Dis donc, profite de l'occasion pour te faire baptiser ». Pour Dubois, l'heure de gloire est arrivée.
Il lui faut toutefois satisfaire deux petites formalités quand même. D'abord faire annuler son mariage, parce qu'il avait bel et bien été marié. Puis seconde formalité, tout de même devenir prêtre. Ça serait pas mal avant d'être cardinal. Et c'est cette cérémonie qui inspirera le fameux aphorisme « Le pape est un fin cuisinier qui sait faire d'un maquereau un rouget. » Un rouget parce que c'est la pourpre cardinalesse naturellement. Alors à la cour, on est absolument suffoqué. En attendant, l'abbé Dubois, maintenant cardinal, vit son apothéose. C'est lui qui organise le sac de Louis XV le 25 octobre 1722. Il se tient, ainsi que le régent, près du jeune roi. On imagine la tête des courtisans. Quelques mois plus tard, après une chevauchée, Dubois ressent une vive douleur à la vessie. Et oui, le chirurgien, il a choisi une chevauchée.
Ah oui, pardon, vu les mœurs de la personne en question, franchement.
Ah oui, non, là, je ne suis plus tellement dans l'esprit, là, c'est d'avoir été voir les carmélites, ça m'a détourné un peu de vos préoccupations. Alors donc, après une chevauchée à cheval, il ressent une vive douleur à la vessie et le chirurgien Lapéronie lui ouvre le canal de la verge. Hélas, la gangrène est là, probablement.
Dans la verge ?
Ça a tout gagné. Il avait probablement un cancer de la prostate qui s'est diffusé.
Puni par là où il a pêché.
Et c'est tout à fait ça. Alors, il faut pratiquer l'amputation totale. Le régent qui a assisté à l'opération écrit « Il a enfin consenti à se laisser faire eunuque ». Dubois meurt le lendemain de son opération, le 10 août 1723. Cette fois, le cardinal de Noailles, qui avait refusé de le faire archevêque, accepte bien volontiers de célébrer ses funérailles à Notre-Dame. Alors la prochaine fois, messieurs, que vous entendrez des enfants dans une cour de récréation chanter « il court, le furet », ayez une petite pensée pour l'abbé Dubois, génie politique, dont le seul tort fut de ne pas être bien né, et comme nous l'a dit Stéphane à l'instant, en effet, qui mourut par là où il avait péché. Prenez-en de la graine, messieurs.
Très bien. Et surtout, revoyez le film Que la fête commence. Moi, je pensais que le personnage de Rochefort dedans était complètement imaginaire et il correspond vraiment à ce que vous nous racontez.
Mais c'est un homme très, très brillant.
Brillant, mais un grand débauché devant l'histoire.
Oui, un sacre. Oui. Merci Clémentine, vous restez avec nous. On va avoir besoin de vous pour le quiz.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Parenthèse enchantée pour vous, chers auditeurs. Historiquement vôtre est une expérience beaucoup plus douloureuse pour Stéphane Bern, qui, durant ces deux heures, doit endurer des récits parfois traumatisants, comme lorsqu'un invité nous apprend qu'on a gaspillé un jour du sang royal.
Car on le saigne toute la journée, au point d'ailleurs qu'à la fin, on ne sait plus où mettre le sang royal, alors on le jette par la fenêtre.
Oh non.
Mais non, c'est trop con, Stéphane avait plein de Tupperware. Autre moment douloureux pour Stéphane, quand sonne l'heure du quiz. Et que la France entière, en tout cas les fidèles de Secret d'Histoire, assistent impuissants au naufrage de leur idole.
C'est une légende urbaine.
To be alive. Nous allons voir si vous allez gagner, Stéphane. La première question est désarmante de simplicité. Vraiment. Alors là, si vous ne répondez pas à cette question...
Vous avez les fiches et la réponse.
Pas du tout. Vous allez voir, c'est très simple. Là, la question tient en cinq mots. Qui était Johannette de Vouton ? Oh mon Dieu. On est mal.
Elle est sans doute connue sous un autre nom.
Non, je confonds avec
Johannette de Vouton.
Enfin...
Certains ne comprennent pas le principe de compétition.
C'est pas Jeanne d'Arc
par hasard.
Qu'est-ce que vous dites? C'est réponse de Stéphane Bern.
Je ne sais pas. Je ne connais
Jeannette de Vouton.
Jeanne d'Arc.
Découvrons la réponse.
Vous avez gagné.
Eh oui, soufflé effectivement
non, elle m'a rien dit.
Par Clémentine.
Elle a dit
Jeanne d'Arc. Non. Elle a dit c'est Jeanne d'Arc et vous en avez finement déduit. Avec... Mais oui, mais c'est ça, avec cette connexion neuronale qui fait votre légende, vous en avez déduit Jeanne d'Arc. Bravo. Quand Jeanne d'Arc signe un document, elle signe Joanne. Dans un procès verbal en latin, elle déclare s'appeler Johannette et à l'évêque Cochon, elle dit, Cochon a eu, elle dit que là où elle vient, on porte le don de sa mère, soit de Vouton, un village qui se trouve à 5 km de Don Rémy. Vous voyez, Stéphane.
Oui, que j'y arrive.
Vous y arrivez parfois un tout petit peu aidé. Clémentine, question numéro 2 pour vous. En septembre 69, un touriste américain devient mondialement connu. En se baladant dans les rues de Londres, il va se retrouver à l'arrière-plan de la photo de l'album Abbey Road des Beatles. Il va toucher l'équivalent de 250 000 euros, mais seulement 7 ans plus tard. Vrai ou faux ?
Ah, c'est chouette cette histoire.
Vous voyez la pochette?
Oui, bien sûr. Je vous remercie. Écouté les Beatles, vous n'étiez pas encore né.
C'est ce que je dis, Clémentine. Mais... Est-ce que vous voyez le mec au deuxième plan?
Alors, je ne vois pas du tout le mec au deuxième plan, mais est-ce qu'il a pu toucher 250 000 euros de droits pour avoir figuré sur la photo? Il faut dire qu'elle a été diffusée à des millions d'exemplaires, donc ce n'est pas exclu. Et pourquoi 7 ans plus tard? Parce qu'il ne s'est reconnu que 7 ans plus tard ou parce qu'il était enfant? Et quand il est devenu adulte, il s'est dit, mais c'est moi sur la photo, on me doit de l'argent. Je réponds oui.
Elle répond oui, et bah, vraiment, mais inspirez-vous de Clémentine pour le cheminement comme ça intellectuel, une réflexion, puisque c'est faux. Il s'appelle Paul Cole. Sa femme est partie faire les musées. Lui, il s'en fout un peu des musées. Il est parti se balader au soleil en attendant, mais pas de chance, la photo n'est pas assez nette pour qu'on le reconnaisse. Oh. On lui demandera jamais un seul autographe de sa vie. Il ne touchera donc jamais un seul centime.
Alors, oui.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Quand Jacques Chirac a démissionné de Matignon en 76, il a dit à Valéry Giscard d'Estaing qu'il allait faire un tour du monde. Vrai ou faux ?
Non, non.
C'est faux.
Je pense que c'est faux.
Faux est une bonne réponse. Il a déclaré « Je vais ouvrir une galerie de peinture et m'en occuper, je ne ferai plus de politique. » 5 ans plus tard, il ne sera pas étranger à la défaite de Giscard à la présidentielle de 81. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, là, c'est qui tout double. Hein. Elon Musk, le célèbre fondateur de SpaceX, possède les bottes que portait Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune. Vrai ou faux ?
Qui est ce gars-là,
Elon Musk. C'est le fondateur de Tesla, de SpaceX. C'est lui qui veut nous envoyer sur Mars.
Ce serait possible encore qu'il me semble que tout a été donné au musée de l'espace. Tout ce qu'avait Neil Armstrong, tout a été donné par sa veuve.
Et donc la réponse est...
Je pense que c'est quand même possible. Les collectionneurs fous sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour leur passion. Je dirais vrai quand même.
Ouais. Entre possible et avéré, malheureusement, il y a une différence, Clémentine. C'est la défaite pour vous aujourd'hui.
Mais
c'est
décidément,
faux.
C'est les la bottes, catastrophe.
Les bottes de Neil Armstrong sont restées dans l'espace, figurez-vous. Les astronautes ont dû se décharger de certains objets pour pouvoir ramener de la roche lunaire. On en a parlé l'autre jour ici même. Ils ont laissé les bottes, mais aussi 2 balles de golf. Qu'est-ce qu'ils étaient
passés
avec
ça.
Des balles de
dans
golf
dans l'espace. Ils les ont laissé où ? Sur la Lune.
Ah, je pense que oui, il n'y avait pas la poubelle de tri.
Ils ont laissé bien plus de choses que ça.
Un javelot.
Il y a aussi tout leur relief stercoraire dans des sacs en plastique.
Bien sûr, des couches sales.
On n'a pas le droit d'y toucher.
Non. Ils ont laissé des tongs aussi, une plume de faucon. Je ne sais pas pourquoi. Et des sacs contenant, effectivement, vous l'avez dit, leur urine. Et des excréments. Bon appétit si vous êtes en train de goûter. C'est en tout cas Stéphane Bern qui décidément fait mentir la mauvaise réputation qu'il a dans ce quiz que je lui ai forgé entièrement. Ouais. Et il a encore gagné. Bravo, mon grand Stéphane.
Merci, cher Mathieu. C'est bien de reconnaître vos erreurs.
Oui, à demain.
Mmh. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre, l'émission d'histoire pas comme les autres. 2 heures pour découvrir les destins souvent épiques de 3 personnages qui, alors sur le papier, n'ont rien à voir et qui pourtant ont un point commun. Vous aviez compris ça, Mathieu, hein ?
Mais je commence maintenant à le comprendre, à peine. Exactement 3 personnages pour une thématique aujourd'hui, après nous être quelque peu égarés sur les chemins rocailleux et glissants de l'humour grivois, notamment Stéphane, hein, sur notre spécial timbre.
Faut leur lécher le derrière avant de les tamponner.
Nous avons décidé de revenir dans le droit chemin en vous proposant cet après-midi une spéciale « Dieu leur a donné la foi ».
Alors, je vous ai raconté le destin de Louise de Lavallière, cette favorite de Louis XIV qui a fini au couvent. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de celle qui est devenue Sainte Thérèse de Lisieux.
Pour ma part, je vous raconterai l'histoire plus récente de celui qui ne deviendra pas saint, Kanye West, ou alors, ça chie vraiment dans la colle au Vatican, le rappeur candidat à l'élection présidentielle américaine qui a 2 idoles, Stéphane, Donald Trump et Dieu. On essaiera de comprendre dans quel ordre.
Et au programme de cette 2e heure également, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Enfin, vous croirez tout le reste, croyez-moi.
C'est-à-dire,
Olivier Pouls. D'abord, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous raconte l'histoire de la religieuse. Oui, celle qui est bien fourrée avec
bien fourrée, oui. Continuez.
Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Dieu leur a donné la foi, voilà le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. Et il n'y a pas d'âge pour rencontrer Dieu. Si Louise de Lavallière l'a découvert sur le tard, voici maintenant l'histoire d'une jeune fille qui a dévoué sa courte vie tout entière à l'adoration exclusive du Seigneur. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Adopte un mec. Voici l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux.
Historiquement vôtre. Le récit.
Le pape Pie X a décrété un jour qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes. Et depuis près d'un siècle, les foules se pressent dans l'imposante basilique de Lisieux pour la célébrer. L'histoire de Thérèse de Lisieux, c'est celle d'une enfant née dans le pays d'Auge à la fin du XIXe siècle et qui très vite a été touchée par la grâce divine. La jeune Thérèse Martin a 10 ans quand une étrange maladie vient bouleverser sa vie d'enfant choyée. Un soir, elle est prise de violents tremblements. Son état suscite de vives craintes et pendant des semaines, la pauvre Thérèse est alitée. Aucun remède ne parvient à la soigner et plusieurs fois par jour,
Cesseur assiste avec effroi aux terribles crises d'hallucination qui la frappent. Face au calvaire de la petite dernière, la famille est impuissante. Chez les Martin, on est très pieux, alors tout le monde se réfugie dans la prière et attend le miracle qui guérira Thérèse. Et au 49e jour de la maladie, le miracle intervient. Dans la chambre de Thérèse, une statuette de la Vierge Marie trône sur la commode. Depuis son lit, la fillette la regarde avec adoration et tout d'un coup, elle en est sûre. La Vierge lui adresse un tendre sourire. Thérèse l'affirme, le sourire lumineux de Marie l'a guérie de ce mal que le diable lui avait envoyé. Mais loin du mysticisme, ceux qui ont cherché à comprendre les raisons de cette maladie soudaine ont supposé que Thérèse souffrait de dépression, car c'est une enfant sensible et triste depuis qu'elle a perdu sa mère, Zélie Martin. Et chaque départ de ses sœurs au couvent est un nouveau déchirement pour la Benjamine de la fratrie. Quant à sa guérison miraculeuse, on imagine que Thérèse a vu en la Vierge Marie une mère qui ne la quitterait jamais. Quelques années plus tard, en mars 1887, le père de Thérèse apprend dans le journal qu'un terrible crime a eu lieu au 17 de la rue Montaigne à Paris. Trois malheureuses y ont été sauvagement assassinées. Il s'agit de Régine de Monti, une courtisane parisienne, et de sa femme de chambre. Quant à la troisième victime, ce n'est qu'une jeune enfant. Cette affaire qui a défrayé la chronique à l'époque et passionné les foules porte le nom de l'assassin présumé. C'est l'affaire Henri Pranzini.
Des pâtes, oui mais...
Non.
Ah non, pas ça.
Arrêté après les meurtres, l'homme est rapidement jugé. Le verdict tombe, il est condamné à mort et sera vite conduit à l'échafaud. La presse et ses lecteurs approuvent la condamnation du monstre. Mais à Lisieux et contre toute attente, Thérèse, du haut de ses 14 ans, décide de le sauver. Ce qu'elle souhaite à tout prix, ce n'est pas organiser l'évasion du tueur, mais sauver son âme de l'enfer. Et pour cela, Thérèse implore celui qui ne l'a jamais déçu, Jésus-Christ. Main jointe vers le ciel, elle prie pour que le criminel se repentisse avant de subir la peine capitale. Le lendemain de l'exécution, elle s'empare d'un exemplaire du journal La Croix.
Mais bizarrement, je la voyais moins avec Paris Match, qui reste, l'a dit, un excellent magazine où vous officiez désormais, Stéphane. Je le précise comme ça, incidemment.
Oui, c'est gentil.
Discrètement et finement.
Dans le journal, Thérèse découvre que sa prière a été exaucée. Oui, sur l'échafaud, dans un ultime geste, Pranzini s'est emparé d'un crucifix avant de l'embrasser à plusieurs reprises. Thérèse jubile, il échappera aux flammes de l'enfer. Le grand criminel devient le premier enfant de la jeune pieuse, comprenez, le premier pécheur dont elle est persuadée d'avoir sauvé l'âme. Thérèse a trouvé sa vocation et moins d'un an plus tard, alors qu'elle a seulement 15 ans, elle intègre le Carmel de Lisieux. Au milieu des sœurs, l'adolescente se fait désormais appeler Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Au monastère, les journées sont rythmées par les messes et les prières. Et le soir, dans la pénombre de sa cellule, sœur Thérèse écrit. Elle noircit des pages et des pages de souvenirs, mais aussi de poèmes où elle écrit la force de l'amour. Ces jolis poèmes, un peu mièvres pour certains, ont été découverts il y a peu quand Natacha Saint-Pierre et Angoune les ont interprétés en chanson.
Non.
C'est vrai, Stéphane.
Non, c'est exact.
C'est exact.
Ce sont vraiment les paroles. Vous savez que le livre de La vie de Thérèse se vend toujours à des oui. centaines de milliers d'exemplaires.
Et de là à le chanter.
Non, c'est une très belle chanson, très beau disque.
Magnifique,
Natacha Saint-Pierre. Vraiment,
oui,
je vous
le conseille. Oui, on embrasse Natacha.
Je l'ai.
Vous l'avez, évidemment.
Mais la popularité de Thérèse de Lisieux ne date pas de ses récentes interprétations.
J'ai envie de dire heureusement, Stéphane.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue chaque jour, trois personnages pour une thématique. Aujourd'hui, Dieu leur a donné la foi, mais pas au même âge. Stéphane, continuez de nous parler de celle qui est devenue et est restée à jamais dans l'histoire et le cœur des croyants, Sainte Thérèse de Lisieux.
Retour au monastère de Lisieux. Nous sommes en 1896, Thérèse tombe à nouveau malade.
C'est vraiment la grosse déconne cet après-midi, Stéphane, avec Sainte Thérèse de Lisieux.
Non, vous savez, c'est une sainte qui me touche beaucoup,
oui,
je le dis très sincèrement. Et son destin me bouleverse.
Oui.
Elle crache du sang.
Ah oui, ben ça va.
Il n'y a pas de doute, elle est atteinte de tuberculose. Très affaiblie, elle sait que la mort l'attend, mais elle n'a pas peur de ce retour au ciel. À seulement 24 ans, la jeune sœur disparaît dans l'anonymat de son couvent. Mais on l'a compris, elle laisse de nombreux écrits. Ils sont regroupés et publiés sous le titre de ce livre dont je vous parlais à l'instant, « Histoire d'une âme ». Et très vite, c'est un succès d'édition. La popularité de Sœur Thérèse grandit à mesure que le monde découvre sa profonde spiritualité. Surtout, voyez-vous, c'est une spiritualité toute simple, c'est une voix. Ce n'est pas des gestes héroïques comme les saintes d'autrefois. C'est des petits gestes du quotidien, vous savez, ces gestes de bonté que vous pourriez avoir, vous, Mathieu, tous les jours.
Je pourrais,
oui. AIS. Au Carmel de Lisieux, on commence à recenser les miracles attribués à la future sainte. Car chaque jour, des dizaines de fidèles affluent sur la tombe de Thérèse pour implorer sa miséricorde. La plupart sont des malades désespérés que la médecine ne parvient pas à aider. Thérèse rend la vue à une petite aveugle, elle soigne une mère de famille atteinte d'une grave infection, elle guérit une religieuse infirme. Ces miracles sont recensés par centaines. Apporter son aide aux croyants en détresse, c'était une promesse faite par Thérèse avant sa mort. La carmélite avait déclaré qu'une fois montée au ciel, elle ferait tomber sur l'humanité une pluie de roses. En 1925, Thérèse est érigée en sainte par la canonisation. Deux miracles sont alors retenus et authentifiés par l'Église. La guérison de deux femmes atteintes de tuberculose. Mais il en est tant d'autres qui alimentent sa légende. On raconte d'ailleurs qu'un jour de 1918, une petite fille prénommée Edith est conduite sur la tombe de Thérèse au cimetière de Lisieux. C'est sa grand-mère Léontine, la tenancière d'une maison close de la région, qui est à l'initiative de ce pèlerinage. Car l'enfant souffre d'une inflammation de la cornée qui lui a fait perdre la vue. Léontine croit dur comme fer en la bonté de la petite Thérèse. Elle prélève de la terre sur sa tombe et l'applique chaque jour en bandeau sur les yeux d'Edith. Et miracle, la petite retrouve la vue. Quelques années plus tard, la France découvre la voix saisissante d'Edith Piaf, qui toute sa vie prie et vénère Sainte Thérèse de Lisieux.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Et comme l'icône de la chanson française, nombreux sont ceux qui aujourd'hui encore, partout dans le monde, se placent sous la protection de la petite Thérèse, devenue l'une des saintes les plus aimées de l'histoire. Et vous savez, François Mitterrand, à la fin de sa vie, avait demandé, alors que les reliques de la sainte étaient exposées, notamment à Notre-Dame des Victoires, il avait demandé que le convoi avec les reliques de la sainte passe rue de Bièvre. Il était descendu de chez lui devant sa porte alors qu'il était au terme de son existence.
Lui aussi était
pour
fan
se recueillir devant les restes, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux.
Europe 1, historiquement vôtre.
Comment devient-on un saint? Quelle est la procédure pour être canonisé? Doit-on envoyer son dossier par voie postale ou bien est-ce dématérialisé? Maintenant, pour le savoir, accueillons sans plus tarder Christiane Rancé.
Bonjour Christiane Rancé.
Bonjour.
Vous êtes romancière et essayiste. Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage qui fait référence, Dictionnaire amoureux des saints, c'est aux éditions Plon. Dans votre dictionnaire des saints, Sainte Thérèse de Lisieux ne semblait pas faire partie de vos préférés. Qu'est-ce que vous aimez ou à l'inverse, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans son histoire?
Mais moi, je n'aimais pas le fait qu'elle soit petite. J'étais pensionnaire à Bayeux et on me l'a donné toujours en exemple. Il y avait deux femmes qu'on me donnait en exemple. C'était la reine Mathilde parce qu'elle savait coudre et sa patience, sa fidélité. Et Sainte Thérèse de Lisieux parce qu'elle aimait les petites choses. Donc, ça ne me plaisait pas beaucoup. Puis, j'étais allée à la basilique de Lisieux et j'avais trouvé l'endroit, mais sinistre, sinistre. Enfin, c'est d'une laideur absolument épouvantable.
Ah bon? Ah ben moi, je voulais y aller. Je voulais y aller ce week-end
allez-y.
Même, pour vous dire.
Ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est toutes les petites chapelles des gens du monde entier. Il y a la paroisse des Portugais, la chapelle des Portugais, des Allemands, des Espagnols.
J'irai, puis si c'est pas bien, je me ferai rembourser, Stéphane, vous me rembourserez.
Si vous voulez, mais je crois que l'entrée est gratuite, de toute façon.
Oui, et puis
on peut prier.
Et puis il y a quand même, effectivement, quand on rentre dans la chapelle, il y a tout d'un coup une présence qui se manifeste.
Ah oui.
Là, mais ne serait-ce que la foi, ce qu'on disait, de tous ces pèlerins qui viennent avec cette espérance qu'ils portent au cœur, quelque chose qui ne peut pas ne pas vous toucher.
C'est une sorte de mini Lourdes, en fait.
Mais, c'est le deuxième lieu de pèlerinage en France.
Mais Christiane, on est d'accord, ce qui touche dans le destin de Sainte Thérèse, c'est justement ces petites choses du quotidien. Ce n'est pas la grande voix héroïque de Sainte Thérèse d'Avila ou de toutes ces saintes qu'on nous donne,
donne
un exemple.
Mais...
c'est des petits gestes jour après jour, des choses qui nous sont accessibles à nous, pauvres humains.
Et alors, quand on a été un petit peu... moi, j'étais un petit peu élevée dans l'idée qu'il fallait être héroïque, etc. Comme elle, d'ailleurs, parce qu'elle veut être une sainte quand elle est toute petite. Mais c'est elle qui va inventer cette voix de sainteté. Ce n'était pas du tout à la mode à l'époque. Elle va décider, effectivement, que comme elle n'a pas, elle pense-t-elle, le pouvoir de monter jusqu'à Dieu par des actes héroïques, eh bien, elle va demander à Jésus d'étendre ses bras vers elle et de la faire sainte. Et là, elle va effectivement inventer cette voix extraordinaire qu'elle appelle ma petite voix parce que elle est d'abord profondément héroïque dans le quotidien, parce qu'il est plus facile, effectivement, de lutter contre les mauvaises pensées, parce qu'elle a été quand même victime de beaucoup de méchanceté, de beaucoup ce qu'elle appelait les coups d'épingle, et de continuer à donner de l'amour contre ça que de partir faire la conquête du monde.
Alors, qu'est-ce qu'un saint ? Moi, j'aimerais qu'on remonte un peu à la base. Qui décide ? Qui devient saint ? C'est le pape ? C'est un collège de cardinaux ? Qui décide ?
Alors, c'est très compliqué, parce que c'est toute une démarche. Il ne faut pas croire que ce soit accordé très facilement. C'est d'abord les gens qui sont autour. C'est la personne elle-même, dans la bonté, le bien qu'elle fait dans sa vie, créant, on va dire, un exemple. Quand elle meurt, l'entourage demande, effectivement, le diocèse, l'entourage, demande à ce qu'il y ait la possibilité de ce qu'on appelle ouvrir un dossier en béatification. Donc, on va faire une enquête très, très sérieuse qui va durer plusieurs années, et on va apporter au Vatican les preuves de ce qu'on appelle les vertus héroïques de la personne qui est décédée. Le Vatican va décider, va lui-même lancer ce qu'on appelle le procès en béatification, va lancer toute une procédure pour vérifier, envoyer effectivement des avocats, chaque cause a son avocat.
Et d'où l'expression l'avocat du diable.
Donc,
vient de là.
Oui, parce que la grande peur du Vatican, c'est de sanctifier quelqu'un qui se retrouve être effectivement plutôt du côté du diable que du côté de Dieu. Donc, et ensuite, une fois qu'on reconnaît la béatification de la sainte ou du saint, et qu'on va commencer le procès en canonisation. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que là, il va falloir des miracles.
Ah, on ne peut pas être saint sans avoir réalisé de miracles.
Alors, il a commencé à y avoir une procédure un peu particulière dont use beaucoup le pape François. Ça s'appelle le santo subito, c'est-à-dire si vraiment le peuple de Rome vient et demande qu'il y ait proclamation d'un saint, le pape peut décider de passer outre ces procédures, qui étaient très très longues. C'est sainte Thérèse de Lisieux qui va faire, c'est le pape Benoît XV qui va décider que la procédure entre la canonisation, la béatification et la canonisation va être raccourcie, sinon c'était 50 ans. 50 ans de vérification.
Mais en fait, ce qui est formidable, et je me permets de rebondir sur ce que vous dites, Christiane Rancet, c'est que Sainte Thérèse, enfin Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, elle, très vite, il y a son culte qui naît.
Alors ça, c'est une histoire extraordinaire, c'est son livre. Parce qu'elle meurt dans l'anonymat, elle est très malade, et c'est sa sœur, toute la famille va rentrer au Carmel.
Sœur Agnès, qui était la
mère supérieure. Donc elles vont toutes rentrer au Carmel, et elles vont lui demander d'écrire, de composer des poèmes, parce qu'elle était très très joyeuse et très très créative.
Elle n'était pas austère.
Elle n'était pas du tout austère. Elle avait fait une pièce de théâtre pour les vertus de Jeanne d'Arc. Enfin, c'était une très grande rigolote. Elle était extrêmement douce, extrêmement rigolote, extrêmement humble. Donc elles vont lui demander de commencer à écrire des petits poèmes, des hymnes, et puis ensuite les souvenirs d'enfance. Elle a cette merveilleuse parole de dire « Oh, quand il s'est agi de parler de mon enfance, j'ai eu l'impression d'aller à la pêche, j'envoyais le fil et ça venait tout seul. » Elle est une fraîcheur extraordinaire. Et quand elle meurt, les deux sœurs, la sœur supérieure, rédige les trois petits manuscrits A qu'elle appelle ABC. Elle rédige un manuscrit complet qu'on appelle Histoire d'une âme à ce moment-là. Et on l'envoie tout simplement, mais c'est à 500 ou 600 exemplaires, dans les Carmels pour édifier les autres carmélites. Et ce livre va se répandre d'une façon absolument prodigieuse.
40 langues et dialectes vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. C'est ce qui l'a rendu finalement.
En 1915, meurt en 1897. En 1915, 1 million d'exemplaires sont vendus.
Vous imaginez ?
Et ensuite, Natacha Saint-Pierre qui reprend.
Oui, c'est ça.
Vraiment, c'est
magnifique. En fait, c'est ce qui la rend universelle en quelque sorte. Oui. En tout cas, merci beaucoup Christiane Rancet d'avoir été avec nous. Oui. Je vous rappelle, le dictionnaire amoureux des saints qui est paru aux éditions Plon.
Et si on doit lancer un procès en canonisation pour Stéphane, il faut s'y prendre tout de suite. Quand est-ce qu'on doit le lancer ? J'envoie les pièces, j'envoie directement au Vatican.
On va essayer de son vivant.
De son vivant, ça sera le premier canonisé de son vivant. C'est le défi qu'on lance aujourd'hui sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, autour de notre thématique du jour, alors aujourd'hui c'est Dieu leur a donné la foi, nous évoquons les destins de trois personnages. Deux, évidemment, historiques, et le troisième, forcément plus contemporain, parce que l'histoire, ça se conjugue aussi au présent. Et c'est à vous, Mathieu, que revient l'honneur de nous parler de ce troisième personnage, entre guillemets, moderne. Après Louise de la Vallière, Sainte Thérèse de Lisieux, un autre saint, Autoproclamé, celui-là, je crois, non ?
Oui, Stéphane. Voyant assez mal le pape François checker son bouti sur... Je pense que Kanye West va attendre un petit peu avant d'obtenir une canonisation officielle. Mais ça ne l'empêche pas de se considérer déjà comme un saint, comme le messager de Dieu sur Terre. Et il s'est même qualifié de nouveau Moïse. Alors,
ah oui,
mais que s'est-il passé ? Je vous rappelle qu'on parle quand même d'un des plus célèbres rappeurs au monde qui, jadis, dans ses clips, faisait claquer des strings sur des cagoles siliconées astiquant des Bentley. À quel moment Dieu a-t-il donné la foi à Kanye ? Surtout, est-ce que c'est lui qui, dans un moment d'absence, car même Dieu, Stéphane, a des moments d'absence, lui a suggéré de se présenter à la présidentielle américaine, sa dernière fantaisie. Nous allons tenter d'y voir plus clair, mais hélas, vu le caractère surréaliste du personnage, un portrait décalé à 99% ne convient pas à Kanye West, dont la vie est déjà suffisamment décalée comme ça. Je vous propose donc de vous mettre au défi par l'entremise d'un petit quiz, puisque vous adorez les quiz. Jouons ensemble à Kanye veut gagner des millions. Première question. La spiritualité, c'est le thème de notre émission, a toujours été au cœur de la vie de Kanye West. En 2004, sur son premier album solo, on trouve le titre « Jesus Walk », la marche de Jésus. Puis en 2013, sa foi s'affermit encore avec le titre « Jesus », contradiction habile de son surnom « Yeezy » et de son idole « Jésus-Christ ». C'est comme si vous vous étiez rebaptisé « Jesus Bern ». Faudrait d'ailleurs alors tirer un trait sur les vacances en Espagne afin d'éviter tout quiproquo. Mais revenons à Kanye. En 2018, son ascension spirituelle connaît un coup d'arrêt. Mais pourquoi ? A. Parce qu'un prêtre refuse d'assurer la confirmation de son fils au dernier moment après avoir réalisé que les hosties étaient en cocaïne. B. Parce qu'il tombe sur ce verset de la Bible qui dit « Les derniers sont les premiers » et qu'il réalise donc que ça signifie qu'il va devoir échanger sa place avec Doc Gynéco. Ou C. Parce qu'il accède au poste de directeur créatif des Pornhub Awards, cérémonie qui récompense les meilleures vidéos porno de ce site. Enfin, je crois que c'est un site, je l'ai lu, enfin on me l'a dit quoi. D'après vous, Stéphane ?
Moi je pense que c'est C. Parce que Doc Gynéco, il ne sait pas qui c'est.
Oui, ça c'est vrai. C'est encore pire que ça, en fait, il ne sait pas qui c'est.
Et puis des hosties en cocaïne, ça me paraît énorme quand même.
Ah ben, de la cocaïne séchée. Vous n'avez jamais essayé.
Non,
jamais pour vous.
Non plus.
J'allais dire avec modération. Plutôt non. Avec interdiction.
C'est interdit, certes.
C'est une bonne réponse, Stéphane. Nous sommes en 2019, les Pornhub Awards. Effectivement, il est le parrain des Pornhub Awards.
Et, incroyable.
Et c'est pas complètement anodin. Il avait fait, j'ai réalisé dans mon enquête qu'il avait fait, avant d'être avec Kim Kardashian, dont on va parler tout à l'heure, il avait fait une sextape avec la femme sosie de Kim Kardashian, à l'époque où il la connaissait pas encore, parce qu'il était déjà fan d'elle.
Ah oui.
Et donc, il a fait une sextape avec sa sosie. Deuxième question. Nous sommes en 2019, les Pornhub Awards sont loin. Dans un volte-face qui surprend l'industrie du X, Kanye West se convertit au christianisme évangélique. Il prend alors une décision radicale. Mais laquelle ? A. Il décide de produire un album de reprise hommage à Sœur Sourire. Qu'il baptisera Dominic Nick Nick, sans comprendre que le jeu de mots ne marche pas en anglais. B. Il s'engage à reverser 15% de tous ses droits d'auteur à une fondation de charité chrétienne. Ou C. Il s'engage à bannir toute forme de juron de ses futures œuvres musicales. From now on, I am the Black Henry Death, précisera Kanye West.
Non, il verse 15% de tous ses droits d'auteur à une fondation.
Non, il décide de ne plus dire de gros mots dans ses chansons. C'est la décision qu'il a prise. Mais depuis cette date, il ne dit plus, il n'y a plus de jurons dans les chansons de Kanye West. Un morceau de hip-hop sans injure, c'est comme un camembert pasteurisé, c'est un non-sens. Mais ainsi en a décidé Kanye, qui déclare « J'ai toujours senti que Dieu voulait m'utiliser. À présent, je le laisse faire. » En matière de manipulation, Dalida avait Orlando, Dieu à Kanye West. Il ne chante plus à présent qu'en gospel, figurez-vous. Il organise chaque semaine des messes du dimanche sous forme de mini-concert en plein air. Il se mélange à la foule et, je cite Kanye, « Je leur jette au visage l'amour que Jésus m'a sommé de transmettre en geyser au peuple. » Là, vous vous dites, Stéphane ?
C'est cela, oui, oui, oui.
Et
mais
vous
c'est
n'avez
pas, bon,
pas tort.
Jeter de l'amour en ce moment.
Oui, oui, jeter de l'amour, et surtout en geyser, ouais. Sans masque. Vous n'avez pas tort, sa femme, Kim Kardashian, qui doit sa célébrité et sa fortune au fait qu'elle a... Enfin, qu'elle est Kim Kardashian,
quoi.
Je ne serais pas allé jusque-là. Elle commence, elle aussi, à se faire du mouron. Des psys l'ont alerté sur le fait qu'il n'était pas normal que son mari parle de lui à la troisième personne. C'est vrai, à part Alain Delon, qui parle de lui à la troisième personne ?
Je me suis mis cet été en vacances de Stéphane Bern. Et oui. C'est très agréable.
Oui, voilà, à part chez vous et Delon, Stéphane, non, c'est un signe qui doit inquiéter, parler de toi à la troisième personne.
Oui,
un
vrai
signe, parmi d'autres, hélas, concernant Kanye West, puisque le 4 juillet 2020, vous le savez, Kanye passe la seconde du grand n'importe quoi en annonçant sa candidature à la présidence des États-Unis sur Twitter. Programme très axé sur Jésus. Alors, il déclare qu'il n'a jamais voté de sa vie, mais on s'en fout, hein, c'est Dieu qui lui a dit d'y aller, alors il y va. Confiant sur ses capacités intellectuelles, il déclare « Visiter mon esprit, c'est comme visiter une usine Hermès. Vous n'y trouverez aucune fissure. » La suite de la campagne va lui donner tort. En effet, que va déclarer Kanye durant son tout premier discours officiel ? A. Que le planning familial est la création des suprémacistes blancs pour faire le boulot du diable. B. Qu'un éventuel vaccin contre la Covid-19 serait l'incarnation de la marque de Satan. C. que ils, l'identité exacte de ce ils n'étant pas spécifiée, veulent nous implanter des puces afin que nous ne puissions plus franchir les portes du paradis, ou des, toutes ces conneries à la fois, parce qu'au point où il en est, Kanye n'est plus à une connerie près.
Je serais très tenté par le D.
Eh bien, c'est une bonne réponse, Stéphane. Ouais. Vous êtes plus performant dans mon quiz à moi que dans le quiz officiel. C'est dommage, ce quiz-là ne compte pas. Vous avez gagné, Stéphane. Et donc, on peut s'imaginer quand même qu'on aura Trump et Kanye West à la présidentielle américaine, face à face. Pour qui vous voteriez, Stéphane? Vous imaginez ce face
Je ne suis pas américain.
Ça tombe bien. À un moment, on est bien content d'être luxembourgeois.
Oui, exactement.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Les livres nous racontent l'histoire, Stéphane Bern nous raconte l'histoire, mais notre assiette aussi nous raconte l'histoire. Voici...
Papy de la Nation.
Chaque après-midi, répondant à l'appel de nos estomacs qui gargouillent, il surgit avec la vivacité de Zorro, mais le tour d'attaque du sergent Garcia. Olivier Pouls, régalez-nous.
Et à genoux, les amis, à genoux. Bah, pour déguster une religieuse.
C'est une posture de sainteté.
Bah, bien sûr.
De dévotion.
C'est quand même un dessert extraordinaire. Je ne sais pas si vous aimez ça. Moi, c'est
moi, j'ai aimé ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode.
Vous en êtes revenu de la religieuse.
Oui, parce que c'est l'éclair. Il y a eu la mode de l'éclair à cause de tous ces jeunes chefs, notamment Christophe Adam.
C'est vrai que l'éclair a un peu supplanté la religieuse.
Il a ringardisé la religieuse.
Non, mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, la religieuse est beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile à faire qu'un éclair. En fait, ils ont choisi l'éclair un peu par fainéantise, si je puis dire.
Oh, les feignassous !
Parce que la religieuse, et on va y venir, elle met en scène beaucoup de techniques de pâtisserie, et plus que dans l'éclair, puisqu'il faut savoir faire de la pâte à choux, du glaçage, de la crème pâtissière, de la crème au beurre.
Non mais c'est...
Ça fait beaucoup de choses. Eh oui, c'est un défi. Et alors cette recette, cette fameuse création, la religieuse, on la doit à un célèbre glacier napolitain, mais qui tenait un café à Paris, qui s'appelait Frascati, et en 1856, il propose pour la première fois cette création, qui est à l'époque un peu plus simple que ce qu'on connaît aujourd'hui. Une pâte à choux, de la crème pâtissière et du glaçage, c'est l'esprit d'un éclair qui existait lui déjà auparavant, qu'on appelait d'ailleurs le pain à la duchesse. Et vous savez pourquoi on a appelé ça l'éclair ensuite?
Parce que c'était
tellement bon que ça se mangeait tellement vite qu'on disait se manger en un éclair et on a appelé ça l'éclair. Et en revanche, la religieuse, pourquoi l'a-t-on appelée la religieuse?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, c'est un peu plus tard, c'est en 1904, que pour la première fois on a trace du nom de la religieuse, parce que le glaçage qui la recouvrait faisait penser à la couleur des robes des religieuses de couvent. Et donc c'est tout simplement pour ça que ce dessert s'est appelé une religieuse. Alors la religieuse, on peut la parfumer à plein de choses, chocolat, vanille, café évidemment. Alors je vais essayer de vous donner les bases d'une recette, mais que vous retrouverez évidemment sur europe1.fr plus détaillée, parce que là sinon, les amis, on en a jusqu'à 19h.
C'est un point compliqué.
Alors il faut d'abord faire une pâte à choux. Alors, pâte à choux, c'est tout... en fait les quatre points sont faciles individuellement, mais évidemment il faut faire les quatre. Donc d'abord une pâte à choux. C'est 4 œufs, 256 litres d'eau, 200 g de farine, 100 g de beurre, une petite pincée de sel. On fait chauffer l'eau, le beurre et le sel. On rajoute la farine, on mélange bien, on ajoute les œufs un à un, puis on forme des petites boules et on les cuit au four 30 minutes à 180 degrés. Il faut deux boules de différentes tailles parce que la religieuse, après, il faut la monter. Bien sûr, une petite boule au-dessus, une grosse boule en dessous.
Moi, je pensais que c'était la forme de la religieuse.
Non, c'est deux boules qui sont opposées l'une sur l'autre, liées avec de la crème au beurre. Donc, il faut faire aussi une crème pâtissière pour mettre à l'intérieur. Moi, j'aime bien à la vanille. Alors, je vous donne la recette à la vanille. C'est 4 œufs, 80 g de sucre, 1 demi-litre de lait, de la maïzena et 2 gousses de vanille. Donc, on infuse la vanille dans le lait. On mélange les œufs, le sucre. On ajoute la maïzena, on verse le lait chaud. Et puis, on fait épaissir sur le feu. Là, on a notre crème pâtissière. Il faut encore faire un petit glaçage.
On fait ça dimanche.
Et on met l'appareil déjà.
On va fourrer évidemment les choux avec cette crème pâtissière une fois qu'ils auront cuit et qu'ils auront refroidi. On va les fourrer. Ensuite, on va les glacer. Donc, le glaçage, c'est le chocolat qu'on voit par-dessus. Très simple, là, 100 g de chocolat noir, un petit peu de crème liquide, on fait fondre et on trempe le chaud dedans de manière à ce que ça s'enrobe bien de chocolat et puis ça durcit. Et puis, il faut encore faire une petite crème au beurre pour lier tout ça. Et là, c'est des œufs, du sucre et du beurre. On mélange le tout, le beurre pommade évidemment, et on va sur europe1.fr pour avoir un peu plus de détails, parce que là sinon on va vraiment y passer la journée. Mais en attendant, c'est quand même assez spectaculaire comme dessert.
Eh bien, vous allez nous le préparer pour demain.
Oui. Bah, ça tombe bien, j'avais rien à faire, figurez-vous.
Et nous, on avait justement un petit creux pour le goûter.
Ça
merci,
tombe bien.
Olivier Pouls.
Dépêchez-vous.
On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr et toutes vos chroniques en podcast sur votre appli préférée.
Dieu leur a donné la foi, c'était le thème de notre émission, Stéphane. Et vous, est-ce que vous avez reconnecté avec le Seigneur pendant cette émission, Stéphane?
Alors, honnêtement, chaque fois que je parle de Sainte Thérèse de Lisieux.
Vous êtes habité.
Elle m'habite, oui.
Est-ce que vous avez encore l'énergie pour les fins mots de l'histoire?
Ah bah évidemment, elle m'a redonné une espèce de niaque, de pêche, je ne peux pas vous dire, moi.
Ça sera quoi votre mot de la fin aujourd'hui?
Non mais Mathieu, c'est plus compliqué que ça, c'est un rire.
C'est un rire?
On va comprendre d'où ça vient.
Eh bien, restez avec nous.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Une émission placée sous le signe du Seigneur ne suffira pas, hélas, à faire de Stéphane Bern un bon chrétien. Il faudrait pour cela qu'il renonce aux soirées à un brin olé-olé qu'il organise dans son abbaye, où il finit souvent enchaîné à la sacristie en hurlant
« C'est la lionne, je suis attaché à un poteau !»
Mais chacun mène sa barque comme il l'entend, nous ne sommes pas là pour juger. Non, surtout que Stéphane, non. Vous avez une grande qualité, votre parfaite connaissance de la langue française, qui nous permet chaque jour de découvrir l'origine insolite d'un mot. Ou d'une expression.
Mais justement, Mathieu, aujourd'hui, ça ne sera pas une expression. Ce sera une chronique moitié hommage, moitié historique. Parce que, ça vous a échappé peut-être, mais cela fait 50 ans jour pour jour que Bourvil nous a quittés. Alors, quoi de mieux aujourd'hui que de vous livrer quelques anecdotes autour du rire à travers l'histoire. Voici une blague.
J'en ris déjà, Stéphane.
Un coiffeur bavard demande « Comment voulez-vous que je vous les coupe ?» Le client répond « En silence.
»
Eh bien, cette blague, voyez-vous Mathieu,
elle est vieille ?
Elle a plus de 2300 ans.
Mais non !
Oui, oui, oui.
Elle
fait partie du Philégos, un ouvrage dans lequel on retrouve 265 histoires drôles écrites en grec ancien. Alors, je vous l'ai traduit. Hein,
oui, évidemment. Vous l'avez traduit comme ça, au débeauté. On en avait parlé de ce livre dans Historiquement Vôtre déjà.
Oui, mais la blague était tellement drôle que j'ai pas résisté parce que durant la Grèce antique, Momos, une divinité mineure, fait référence au rire, à la moquerie, son goût pour le sarcasme, fera qu'il sera d'ailleurs écarté de l'Olympe, vous savez, cette montagne sacrée où vivaient les dieux grecs.
Alors la satire, le rire, n'est pas toujours bien vu, ça se confirme au Moyen-Âge, Stéphane.
Oui, exactement. Pour les théologiens, Jésus n'a jamais ri. Et comme l'Église dirige les hommes, eh bien, le rire devient suspect au Moyen-Âge, indécent, il est l'œuvre du diable, et c'est à cette époque que naît cette expression que vous connaissez, un rire diabolique. Mais retournons à la bouffonnerie. Il est établi qu'Attila est le premier souverain à avoir un bouffon. Le plus célèbre d'entre eux sera d'ailleurs le fou du roi de François Ier, on en a parlé, Triboulet. Là encore, faire rire comporte des risques. Alors qu'il ose des plaisanteries graveleuses sur les courtisanes du roi, ce dernier prend la mouche et décide de le condamner à mort. François Ier, bon prince, demande à Triboulet de choisir sa mort. Il répond du tac au tac « Sire, je veux bien mourir de vieillesse. » Ce mot d'esprit le sauvera. Et quittons-nous, si vous le voulez bien, mon cher Mathieu, sur une jolie citation. « Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Il permet d'avancer, mais il n'arrête pas la pluie. » Elle est d'un grand philosophe du rire, Gérard Jugnot.
Merci Gérard et merci Stéphane.
Ça y est Mathieu, je suis déjà nostalgique.
De l'Ancien Régime ? Je vous l'ai déjà expliqué 10 fois, on ne peut pas y revenir, on a essayé la restauration, ça marche pas, les gens n'ont plus envie de ça, à tort ou à raison, mais c'est comme
non,
ça.
Non Mathieu, c'est pas de ça dont je suis nostalgique.
Pardon.
C'est de notre émission, de ces 2 heures
oui.
Qu'on passe tous les jours ensemble dans Historiquement Vôtre. Et ça, l'émission touche à sa fin.
Tout autant pour moi Stéphane, c'est vrai qu'on a encore appris moult choses cet après-midi. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Alors moi je le sais, je ne vais pas donner de réponse, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, ça vous fascine ?
Oui, mais moi ce que j'ai appris. C'est Kanye West.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'il avait couché avec une femme, enfin, qui faisait des trucs avec une femme qui allait ressembler à celle qu'il allait épouser.
Ouais. Il a pas fait que coucher, il a filmé. C'est le principe du sextape.
Sextape.
Alors vous pouvez la retrouver sur www. Le plus d'infos sur le site europe1.fr.
Ce garçon est incroyable,
incroyable
ce Kanye West.
Oui.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Stéphane, je ne voudrais pas m'avancer, mais je crois que notre émission se termine là.
Ben, je sais bien, Mathieu, il faut s'y résoudre à un moment ou un autre. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte.
Ah, ça, c'est simple, Stéphane, ça me fait plaisir.
Non, je parlais de nos auditeurs.
Bien sûr.
Mais je peux vous donner le programme de ce qui nous attend demain. Bon, si toutefois ça vous intéresse.
Vous plaisantez, je serais prêt à payer pour avoir ce programme, Stéphane.
Il vaut d'ailleurs son pesant d'or. Demain, on vous raconte les destins de 3 nouveaux personnages de l'histoire qui n'auraient jamais dû se croiser. Mais ça, c'était avant. La preuve. Giuseppe Borsalino, Charlie Chaplin et Geneviève de Fontenay sont réunis par un seul point commun.
Oui, je crains de le deviner, malheureusement, Stéphane. Je voulais l'annoncer à nos auditeurs.
Un grand chapeau.
Un grand chapeau, mais qu'y a-t-il en dessous? On se demande et on verra ça demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.